Désobéissons pour sauver l'Europe avec Julien Bayou.
Merci beaucoup. Merci au Salon Prime Vert pour l'invitation. Merci à Alain pour l'animation des débats. Et puis merci à vous d'être là pour discuter un petit peu de l'Europe. Moi, je suis très content d'être invité. Évidemment, je ne vais pas forcément vous faire de la retape pour les écologistes en amont des élections du 26 mai. Mais je voulais, avec ce petit livre, apporter une contribution au débat sur la question européenne. Je précise qu'on l'a écrit à deux avec un ami qui a trouvé un boulot juste avant la signature. Enfin, on a tout écrit à deux. Et il a trouvé un boulot dans une ONG juste avant la signature. Du coup, il n'a pas signé. C'est pour ça qu'il n'y a que ma figure sur la couverture et qu'il y a des nous qui traînent dans le livre. Mais au départ, cette question vient d'un profond désarroi dans la campagne 2017, les élections présidentielles, où on a vu le camp, pour aller vite, des progressistes et des pro-européens et des écologistes se fracasser sur beaucoup de questions, les égaux et des débats de fond, mais en particulier sur la question européenne. Vraiment le sentiment que la gauche, les écologistes, n'avaient pas vraiment de plan pour changer l'Europe. Voilà. Qu'on se retrouvait finalement la grande masse des gens qui sont plutôt favorables à l'Europe, bien sûr pas celle-là, bien sûr pas celle de Juncker, mais néanmoins plutôt quand même favorable à la construction européenne, qu'on se retrouvait, peut-être qu'il y a des gens d'ailleurs qui ne sont pas du tout d'accord avec ça dans la salle, ça sera l'occasion d'échanger, mais une grande partie des personnes qui sont comme moi européens de cœur et de raison, mais pas du tout satisfaits de son fonctionnement, on se retrouvait complètement démunis, faute d'avoir un plan pour la changer, et puis écartelés finalement entre l'alternative, le statu quo, voilà, à la Hollande en fait, ou à la Macron, c'est-à-dire il n'y a pas grand-chose qui change, on tente de faire un petit geste pour obtenir un geste en retour de l'Allemagne, donc le statu quo, qui est profondément dangereux, c'est le statu quo, c'est ces politiques libérales qui ont sanctionné la Grèce ou qui, en n'aidant pas l'Italie sur l'accueil des réfugiés, ont finalement nourri le populisme et l'extrême droite de Salvini. Donc ce statu quo qui finalement menace l'Europe à moyen terme, en fait, si ça continue tel quel, l'Europe se disloque. Et puis l'alternative radicale qui est en sortir façon Brexit. Donc Cameron qui propose un débat à tous les pays, les autres pays, et puis qui finalement se retrouve acculé au référendum. Un référendum, comme on le sait, qui a été très pollué et dont finalement ceux qui ont voté pour la sortie peut-être ne mesuraient pas toutes les conséquences. D'ailleurs, nous-mêmes ne mesurons pas encore les conséquences de l'éventuelle sortie. Je dis éventuelle parce que on est un peu perdu, hein. C'est censé être le 29 mars. Mais à un mois et demi de la sortie, on ne sait pas très bien encore comment ça va se passer. Ou le plan B, plan A, plan B, dont vous avez peut-être entendu parler, de la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, qui dit en gros, on propose nos revendications pour l'Europe, et si elles sont refusées, alors on s'en va. Et donc quand vous êtes pro-européen, en 2017, vous aviez le choix entre deux alternatives absolument impossibles. Le statu quo, dont vous savez pertinemment qu'il est à l'origine de la plupart des maux en Europe, d'un rejet de la population, des politiques néolibérales, du ruissellement, de tout ce qui ne fonctionne pas en fait, mais qu'on nous impose, ou la sortie brute de l'Europe sur une pseudo négociation perdue d'avance. Et donc, avec cet ami et quelques-uns, on s'est dit, mais quel plan pour les progressistes, les européens, les humanistes, ceux qui pensent que l'accueil des réfugiés c'est important, que l'écologie est fondamentale et que l'Union européenne n'est pas juste un accord de libre-échange. Et donc on a constitué ce plan de désobéir pour sauver l'Europe. Alors, je vais y revenir, mais au départ c'est vraiment l'idée que l'Europe n'est pas juste un accord entre pays. Des accords entre pays, il y en a tous les jours qui se font. L'Europe c'était d'abord un projet vraiment civilisationnel. En tout cas, pour les écologistes, ça l'est, c'est-à-dire vraiment une première étape vers ce qu'on peut qualifier d'utopique, mais la fin des frontières, en tout cas des nationalités, ou des nationalités agressives entre les hommes et les femmes sur Terre. Voilà vraiment le principe humaniste, universaliste, qui permet d'être aussi fier de sa région que de son appartenance européenne et sans que les nationalismes virent aux antagonismes. Là, c'est vraiment la vision, vous voyez, les Allemands ou les Allemandes ne sont pas si différents de nous. Voilà, une fraternité mondiale. Alors c'est très utopique, bien sûr, c'est un projet civilisationnel, c'est le projet de Victor Hugo, c'est le projet d'une prospérité, c'est inscrit d'emblée, bien sûr, dans l'après-guerre. Je crois qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais le fait que le traité sur le charbon et l'acier, puis le traité de Rome en 1957 interviennent que 12 ans après la sauvagerie de la Deuxième Guerre mondiale, c'est assez vertigineux d'imaginer qu'en moins de 12 ans, nos pays, nos populations, aussi martyrisées qu'elles l'aient été, aussi appauvries, aient pu se mettre d'accord pour une étape aussi importante que celle-là. Ça, c'est l'aspect, j'ai envie de dire, européen de cœur. Moi, je suis né dedans, donc je suis né en 1980, l'Europe était déjà faite. Et puis, européen de raison, parce que vis-à-vis de tous les grands défis qu'on a aujourd'hui face à nous, finalement, l'Europe est un échelon absolument pertinent. C'est pas la France dans ses retranchée dans ses frontières qui pourra imposer quoi que ce soit à Facebook, à Amazon en matière d'évasion fiscale. C'est pas vrai. On peut faire des choses, évidemment. Mais c'est au niveau européen qu'on doit agir pour changer le cadre de la lutte contre l'évasion fiscale. C'est évidemment le cadre pertinent pour discuter de la lutte contre le dérèglement climatique. La politique agricole commune aujourd'hui n'est pas activée en faveur de l'agriculture biologique. Elle entretient un modèle d'agriculture intensive qui prend plutôt en otage nos agriculteurs qu'elle ne les libère. Alors évidemment, elle les aide, mais elle les aide à être toujours plus locataires de leur banque, on va dire, endettés, soumis à des distributeurs. Mais si cette politique agricole commune était orientée vers une transition notamment dans l'agriculture bio, alors on aurait un levier phénoménal pour l'ensemble du continent. Sur l'accueil des réfugiés, là encore, l'échelon européen est le plus pertinent. Quand vous avez, comme en 2014 ou 2015, un vrai afflux, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de personnes qui viennent sur nos côtes. Et malheureusement, on ne sait pas les accueillir ou on ne veut pas les accueillir. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Pour 40 personnes qui débarquent à Marseille ou à Valence, vous avez 6 coups de fil entre le Premier ministre italien, espagnol et maltais et français. Mais là encore, à l'échelle de 500 millions d'habitants, organiser l'accueil est beaucoup plus facile et beaucoup plus pertinent que de laisser, comme on l'a fait, la Grèce ou l'Italie en première ligne, avec le risque que la population se retourne contre ses dirigeants ou contre l'Europe. Donc à la fois de cœur et à la fois de raison, l'Europe est un projet imparfait, mais à poursuivre. En tout cas, c'est le présupposé. Si évidemment vous n'êtes pas d'accord avec ça, je pense que vous aurez du mal à être d'accord évidemment avec la suite, mais c'est le présupposé qu'on avait. Et donc, si on se dit, bon, l'Europe nous a été kidnappée, c'est pas ça en fait qu'on voulait construire. Quand on voulait parler d'une prospérité partagée, c'était pas pour permettre le vote du secret des affaires et puis au Luxembourg de faire des cadeaux aux plus grands groupes industriels et économiques pour qu'ils échappent à l'impôt. C'est pas vrai que c'était ça l'ambition des pères fondateurs. Mais c'est pas parce qu'on s'est fait kidnapper le projet qu'on devrait s'en auto-exclure. Or c'est ça vraiment le postulat du Brexit ou du plan A, plan B. Quand on dit, et c'est très dangereux d'ailleurs, on dit je vous propose ça et sinon je m'en vais, en fait on se met dans une position de faiblesse. Par exemple, si je dis à Alain, je veux parler pendant une heure, sinon je m'en vais, et que tu me dis, c'est compliqué parce que tu as une demi-heure, je m'en vais. Et du coup, je suis en position de faiblesse. Alors que par contre, si je dis, non, je vais rester pendant une heure, et si tu veux pas, je reste. Ouais, t'es beaucoup plus embêté. Et on est évidemment dans une position de force, on va s'arranger. Mais vous voyez qu'on est dans une position, quand on désobéit, mais pour rester, pour se réapproprier les négociations et pour... au contraire, retourner à la discussion, on est dans une position beaucoup plus forte que si finalement vous proposez quelque chose de tellement impossible, et c'est notamment les propositions de Cameron ou de Mélenchon, qui propose quelque chose de tellement impossible que finalement les Européens se disaient bah ouais, mais dans ce cas-là, en fait, à la limite, on préfère que vous partiez. Et ça donne le Brexit, ça donne le référendum qu'on connaît en Angleterre. Et pour autant, le statu quo, clairement, n'est pas du tout tenable, puisqu'à moyen terme, c'est la dislocation. C'est la dislocation de l'Europe. Et donc, cette proposition de désobéir, c'est finalement, en fait, dire bien sûr qu'il faut de nouveaux traités, bien sûr qu'il faut donner un poids plus important au Parlement européen, bien sûr qu'il faut une meilleure représentation des citoyennes et des citoyens, bien sûr qu'il faut mettre l'écologie, l'accueil des réfugiés au-dessus des règles qui favorisent le libre-échange, le secret des affaires et autres. Mais il n'y a pas besoin d'attendre ces hypothétiques nouveaux traités pour faire de la politique dans les traités actuels. Et ça passe donc par désobéir. Donc la désobéissance civile, si vous voulez, qui a déjà changé le monde, hein, sans aller dans le lyrisme, c'est la désobéissance de Gandhi, c'est la désobéissance de Martin Luther King. C'est en gros dire, prendre à partie l'opinion publique en disant votre règle, elle est injuste et je vais y désobéir et je fais peser sur vous la charge de me sanctionner pour ça. Donc c'est du faible au fort, c'est renverser finalement le symbole de la sanction et profiter du procès ou de l'émoi dans l'opinion pour faire avancer votre cause. Les règles de la désobéissance civile, en général, c'est en dernier recours, à visage découvert, assumer les sanctions et profiter et pour réclamer un débat public. Eh bien là, c'est ça, mais au niveau d'un État. Les deux points sur lesquels on a voulu porter la désobéissance, c'est les points qui rassemblent les Européens. C'est-à-dire que là où le Brexit, là où Cameron disait « on veut déroger à vos règles », et ils opposaient un pays, le Royaume-Uni, contre les 27 autres, et donc finalement les Anglais contre les Allemands, les Anglais contre les Grecs, les Allemands contre les Polonais. Là, nous, on s'est dit, le moyen de construire finalement du commun, c'est de prendre appui sur les deux sujets qui rassemblent tous les Européens, quelle que soit leur nationalité. Et les deux sujets, c'est pas très compliqué, c'est l'évasion fiscale et la transition écologique. L'évasion fiscale, l'ensemble des populations européennes considèrent qu'on ne fait pas assez pour lutter contre l'évasion fiscale. Bon, c'est que c'est vrai, en fait. Mais même au Luxembourg, un pays qui dépend énormément, qui a même construit sa prospérité sur le dos des voisins, même au Luxembourg, vous avez 67% des Luxembourgeoises et des Luxembourgeois qui disent « c'est vrai, notre gouvernement et l'Europe ne font pas assez sur l'évasion fiscale ». Et donc, vous pouvez prendre appui là-dessus, parce que ces 67%, c'est 90% en France. C'est 87% en Allemagne. Et c'est valable dans tous les autres pays. Et puis la transition écologique, parce qu'en fait, tout simplement, bien sûr, les écolos ont fait leur boulot, mais surtout, malheureusement, il y a une prise de conscience comme jamais du dérèglement climatique. C'est le merveilleux temps qu'on a aujourd'hui, c'est les canicules qu'on a eues cet été, c'est les épisodes extrêmes qui se multiplient, c'est l'extinction, l'effondrement des insectes et des oiseaux. C'est quelque chose qui est maintenant visible. Et donc, vous avez l'ensemble de la population européenne qui estime que oui, c'est vrai, on ne fait pas assez au niveau national ou au niveau européen pour agir contre le dérèglement climatique. Et même les Polonais, qui sont pourtant absolument dépendants du charbon. Même en Hongrie, qui, a priori, on a beaucoup de points de désaccord avec les dirigeants Orbán sur la démocratie, sur l'accueil des réfugiés, sur l'économie. Mais sur la transition écologique, il y a une vraie... un consensus, une attente de la part des Européennes et des Européens pour agir. Et donc, ce plan de désobéissance pour sauver l'Europe, c'est dire, construisons du commun, travaillons par-delà les frontières sur ce qui rassemble les Européens pour finalement prendre à revers leurs dirigeants. Parce que c'est de la faute des dirigeants si on n'avance pas sur l'évasion fiscale. C'est Juncker et c'est quelques dirigeants, notamment aux Pays-Bas ou en Irlande, mais c'est pas la population irlandaise ou la population hollandaise. Et sur le climat, c'est pareil. Finalement, quand il y a une décision à prendre sur le diesel, si on demandait à la population, elle dirait « organisez-nous la transition, mais on est pour la transition. On veut que les personnes soient accompagnées. » C'est d'ailleurs la crise des Gilets jaunes le dit. Les Gilets jaunes ne disent pas « on est contre l'écologie ». Ils disent « on voit bien que la fiscalité carbone, elle est instrumentalisée pour renchérir et pour boucler le budget, là où on a fait trop de cadeaux aux plus riches ». Donc la population, elle est majoritairement en faveur de la transition écologique. Mais au moment des discussions, eh bien, chaque ministre, anciennement chez nous, c'était Ségolène Royal, les Italiens envoyaient quelqu'un pour défendre Fiat. Nous, on défendait Renault. Enfin, elle défendait Renault. Les ministres allemands défendaient Volkswagen. Et c'est ainsi que rien ne change. Et donc, vous voyez qu'en prenant appui sur ces 70-80% d'adhésion, de soutien, on peut prendre à revers les gouvernements ou ces élites qui se sont elles-mêmes coupées finalement des attentes de la population et proposer un changement radical. Et donc de désobéir à quoi ? Eh bien désobéir à cette fameuse règle des 3%. Vous voyez ? Le fait de dire, eh bien nous on va investir les centaines de millions d'euros qui sont nécessaires dans le renouvelable pour avoir une énergie bon marché, dans l'agriculture biologique pour pouvoir nourrir les habitants et rémunérer les agriculteurs, dans la rénovation thermique pour éviter que les gens gaspillent de l'énergie à chauffer les pigeons parce qu'ils sont dans des passoires énergétiques, dans les déplacements, dans tout ce qui peut créer des emplois via ce qu'on peut appeler un Green New Deal, un plan d'investissement qui est en fait similaire à ce qu'avait fait Roosevelt dans les années 30. Prendre appui sur ces deux points et assumer de désobéir, ça veut dire aussi annoncer la couleur. Donc on développe, avec Kevin, le plan hein, dans le livre, c'est-à-dire annoncer la couleur, dire ce qu'on va faire, chercher un accord très large dans les opinions européennes, avec des déplacements, avec des conférences, avec des sondages, avec des mobilisations. Donner des gages aussi, parce que la France est loin d'être exemplaire sur l'évasion fiscale. Il y a beaucoup de nos niches fiscales qui en fait sont utilisées par des grandes entreprises comme un moyen d'optimiser l'impôt. Vous savez qu'en théorie, l'impôt il est aux alentours de 30-31% pour l'impôt sur les sociétés. Ça, c'est le taux nominal. En réalité, les PME, les petites et moyennes entreprises et artisans, sont autour de 24-25 et les grandes entreprises à 8. À vos souhaits. Et c'est pas parce qu'elles sont, elles trichent l'impôt. Il y en a qui trichent. Mais même en ne trichant pas, en fait, elles atteignent 8%. Parce qu'il y a tout un tas de niches fiscales qui leur permettent d'échapper à l'impôt. Et il y a en plus, bien sûr, les entreprises qui ne payent pas d'impôt ou ne payent pas leur juste part et qui sont tolérées. Un exemple parmi tant d'autres, c'est Starbucks, qui est installé en France depuis 2004, qui fait une concurrence absolument déloyale à tous les petits cafés qu'on aime bien. Ben, ces petits cafés, ils payent des impôts. Et Starbucks n'en paye pas depuis 2004. Disneyland, qui accueille des millions et des millions de touristes et de visiteurs chaque année, ne paye pas non plus d'impôts. Parce que c'est le Luxembourg qui aspire. Dès qu'il y a un peu de bénéfices, ils aspirent. Et c'est valable pour McDonald's. Enfin, la liste est très longue. Et c'est même valable pour Engie, qui pourtant est en partie propriété de l'État. Et qui a transféré plus de 20 milliards au Luxembourg. Donc vous voyez, la France n'est pas du tout exemplaire. Et le fait de dire ben, on va balayer devant notre porte, c'est aussi un moyen de favoriser l'adhésion des politiques publiques européennes. Et donc ce plan, c'est finalement assumer de sortir du statu quo, proposer un plan et faire le ménage devant chez soi, et puis engager la confrontation au niveau européen. Alors le risque, quand on dépasse les 3%, c'est la sanction. Qui n'a jamais été mise en œuvre pour l'instant, vous savez, on n'a pas le droit de dépasser les 3% de déficit. La France n'a jamais respecté, en fait. Donc finalement, on désobéit déjà, mais pour un résultat médiocre. Pour l'instant, la Commission européenne n'a pas mis en œuvre la sanction. Je crois que c'est 0,2% du PIB, donc c'est quand même important, hein, c'est 400 millions d'euros d'amende. Mais jamais depuis sa mise en œuvre, cette amende, cette sanction a été installée. Et pourtant, il y a de nombreux pays, dont la France, qui ont tourné le dos à cette règle. Le dernier en date, c'est le Portugal, qui était en déficit et qui, en changeant de majorité, alors ils ont un attelage un peu particulier, il y a un socialiste appuyé par les communistes, mais je crois qu'il ne participe pas au gouvernement, et puis un groupe qui s'appelle le Bloco, qui est un groupe gauche écologiste. Et cette coalition, si vous voulez, a pris le contre-pied de toutes les recommandations de la Commission européenne. Mais c'est très simple. Ils ont dit, bah, très bien, tout ce que vous nous dites, c'est le Sud, et nous, on fait le contraire. Et donc, ils ont À nouveau, bon, le Portugal avait subi des vraies cures d'austérité, privatisation de l'eau, baisse des pensions pour les fonctionnaires, baisse des retraites, baisse des salaires, privatisation dans tous les sens. Et donc ils ont dit, c'est pas compliqué, on va faire exactement le contraire de tout ce que vous nous avez proposé. Et depuis, vous pouvez regarder, c'est pas moi qui le dis, c'est plutôt des magazines économiques qui sont pas très écolos, qui citent le Portugal comme un modèle pour l'Europe, en termes de croissance, en termes d'emploi et autres. Donc assumer de désobéir, c'est rarement sanctionné. Mais quand bien même désobéir et engager un vrai plan de transition écologique, en fait, c'est tout simplement nécessaire. Vous voyez, l'heure est plus à la sensibilisation, l'heure est plus à convaincre. Je crois que tout le monde est convaincu. La question, c'est d'agir. Mais si vous montez la pression en disant c'est finalement la France qui fait sa transition pour le bien commun, parce que l'Allemagne doit le faire aussi, l'Angleterre doit le faire aussi, l'Italie doit le faire aussi, la France s'y met. Eh bien, bon courage aux dirigeants qui voudront sanctionner la France parce que finalement, elle applique l'accord de Paris. Vous voyez, la question devient politique. Bon courage aux dirigeants belges ou luxembourgeois parce que la France désobéit pour lutter véritablement contre l'évasion fiscale. En fait, c'est intenable si vous êtes ministre allemand et que votre population, elle réclame de l'action contre l'évasion fiscale, vous ne pouvez pas sanctionner le pays voisin parce qu'il le fait. Et donc, il faut jouer ce jeu de la tension constructive, et c'est tout bénéfice, parce que la transition écologique génère des emplois. Il y en a 6 à 8 fois plus dans les énergies renouvelables que dans le nucléaire. Pareil avec l'agriculture bio, qui est plus intensive en emploi, meilleure pour la santé, plus rémunératrice pour l'agriculteur. Et donc finalement, et même lutter contre la pollution fait faire des économies, bien sûr. C'est les maladies cardiovasculaires qui sont prises en charge par la Sécu, c'est des morts prématurées. Et puis aussi, c'est des amendes, d'autres amendes, par l'Europe, que nous risquons, puisqu'on ne protège, c'est très clair, d'après l'Europe, la France ne protège pas assez sa population. En Rhône-Alpes, à Lyon, vous êtes très concernés, dans les vallées autour de Grenoble ou de Chamonix aussi, et bien sûr à Paris, et le pire, c'est à Lille. Et donc finalement, c'est intéressant, et pour l'économie, et pour l'écologie, et pour les emplois, d'organiser cette transition. Et donc, voilà ce que nous, on a proposé pour sortir du statu quo qui, de toute manière, disloque l'Europe à moyen terme, et puis le fait d'en sortir franchement. Et puis, avant de terminer, un petit mot quand même sur le Parlement européen qui s'annonce, les élections européennes. Si vous avez voté comment en 2014, vous avez voté avec l'idée que l'Europe était immortelle. Alors, en 2014, moi, j'ai un peu voté par réflexe. Je disais, à la fois, l'Europe, je suis né dedans et peut-être que je mourrai dedans. Enfin, elle est immortelle, c'est irréversible. Et puis, en plus, les conservateurs et les socialistes s'arrangent toujours. Et donc, en fait, le vote sert un peu à rien. Depuis 2014, il y a eu la Grèce, l'arrivée au pouvoir de Orban en Hongrie, l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite en Italie, et puis le Brexit. Donc l'Europe n'a plus rien d'immortel. Ça, c'est évident. Et je pense que quand on vote en 2019, on doit se dire que... Est-ce que c'est les dernières élections telles qu'on les connaît ? C'est possible. Et déjà, on vote et il n'y aura pas de députés britanniques. Mais en plus, il y a un équilibre nouveau qui va se faire jour. Alors évidemment, c'est des prédictions. Mais on peut imaginer que les nationalistes sont beaucoup plus, malheureusement, puissants au sein du prochain Parlement européen. Les conservateurs affaiblis, la social-démocratie affaiblie. Et ainsi, il n'y aura pas de majorité automatique, même pour voter le budget. Et donc, c'est le moment où finalement le Parlement européen peut retrouver un peu de tranchant, un peu de son rôle. Le Parlement, il nomme et il peut défaire la Commission. Il peut valider certaines nominations. Il peut engager des commissions d'enquête avec plus ou moins de pouvoirs d'investigation. Jusqu'à maintenant, on ne les avait pas, les pouvoirs d'investigation. Quand vous avez LuxLeaks et que les écolos, Eva Joly par exemple, demandent une commission, eh bien, on n'a pas le poids suffisant avec la gauche écologiste, la GOE, les communistes. On n'a pas le poids suffisant pour imposer une commission qui a des véritables pouvoirs d'enquête, comme celle du Sénat sur Benalla. Et donc, ils nous ont empapaoutés et il y a une commission d'information. Mais ça, c'est parce que les conservateurs et les socialistes, se mettant d'accord, étaient d'accord sur à peu près tout et réussissaient à peser finalement à l'excès. Dans ce prochain Parlement européen, encore une fois, on joue gros parce que c'est l'avenir de l'Europe qui se joue. Mais en plus, on a la capacité d'envoyer un vrai groupe pivot incontournable qui peut réellement peser sur le cours des choses. Et éventuellement, organiser la désobéissance depuis le Parlement européen pour se réapproprier les politiques publiques menées au nom des Européens. Voilà le plan.
Merci Julien.
Merci.
En fait, si tu veux parler une heure, hein, tu peux. Je vous rappelle que la conférence est enregistrée, que l'enregistrement sera disponible sur le stand Aura FM A301. Maintenant, je vais prendre des séries de questions. Alors, interpellez-moi. Et j'y viens.
Oui, bonjour. Donc, vous commencez l'exposé en disant que pour sortir des traités européens, finalement, il suffit de désobéir, de ne pas les respecter. L'article 5 de la Constitution française, c'est écrit « Le président est le garant du respect des traités ». Donc déjà, il y a un gros problème. Finalement, si on vous écoute, avec la désobéissance en fait, de sérieuses économies, hein, il suffit de ramener la dette de la France à zéro, par exemple. Donc moi, pour moi, il faut être sérieux. La désobéissance, c'est puéril comme comportement. Et que faites-vous à un enfant qui désobéit ? Eh bien, il y a des sanctions. Donc si on désobéit, quel pays va signer des accords de coopération avec la France qui, du jour au lendemain, ne respecte plus sa signature, alors que l'Union européenne, comme tous les traités internationaux, a une clause de sortie légale, qui est l'article 50 ? Merci.
Merci. Moi, je voudrais juste savoir qu'est-ce qui vous distingue, vous rapproche de Génération Écologie avec la liste de Delphine Bateau et Dominique Bourg.
Oui, moi je voulais quand même faire un petit rappel parce que vous les avez fait l'ambiguïté tout le long de votre conférence. L'Union européenne n'est pas l'Europe. L'Union européenne, il y a 28 pays. Et bon, moi, on m'a appris à l'école que l'Europe, c'était de l'Atlantique à l'Oural. Et de l'Atlantique à l'Oural, il y a quand même une cinquantaine de pays, dont notamment la Russie, qui a toujours été dans l'histoire de l'Europe. Et notamment, il y a une institution en Europe qui s'appelle le Conseil de l'Europe, qui regroupe tous ces pays et qui date de 1949, donc bien avant l'Union européenne, et qui, pour moi, est bien plus représentatif de cet ensemble. Donc, que faites-vous de cette institution ? Deuxième point... Pour changer les traités européens, donc vous parlez de désobéissance pour créer un point de fixation et rallier de nombreux pays à vous pour modifier ces traités. Cependant, il faut l'unanimité des pays pour changer les traités. C'est l'article 48. Donc au moindre grain de sable, votre plan tombe à l'eau. Comment vous faites ? Et dernier point, vous avez parlé des sanctions qu'on aurait si on dépassait la règle des 3% qui n'aurait jamais été appliquée. Je vous incite à relire le TSCG qui définit ces sanctions. Ces sanctions ne viennent pas du dépassement des 3%. En fait, quand on dépasse 3%, la Commission a le droit de donner son avis sur le budget des États. Et si jamais cet avis n'est pas respecté, là, oui, effectivement, la Commission peut engager une procédure de sanction. Mais c'est ce qui est arrivé à l'Italie, par exemple, qui ne respectait pas ces critères. La Commission lui a rappelé les orientations qu'elle voulait lui donner, et l'Italie a plié, comme tous les autres pays avant, qui n'ont pas respecté les décisions de la Commission sur ces sujets-là. Voilà, j'aimerais que vous précisiez un petit peu ces trois points qui, me semble, ont été passés un peu légèrement. Je vous remercie.
Oui, pour ma part, j'ai entendu vos arguments, et bizarrement, je les entends aussi dans l'autre sens, quoi. Pourquoi garder l'Europe dans les conditions qu'elle nous donne, économiques, sociales, contre les migrants, contre... Si c'est pour effacer la frontière entre la France et l'Allemagne, pour en mettre une plus forte avec l'Afrique du Nord et la Russie, comme vous disiez, enfin, pour moi, c'est pas un projet de progrès humain. Voilà, donc tout ce qu'a fait l'Europe, fait tomber la petite agriculture, favoriser les plus riches, et voilà, je pense que moi je suis très très pessimiste sur l'Europe et je ne suis pas du tout sûre qu'il faut sauver quelque chose. J'attends, je suis venue vous entendre pour savoir si vous me donneriez envie, mais franchement, votre exposé ne me convainc pas du tout.
Une dernière question de la série.
Bonjour, donc... C'était pour vous demander, par rapport à la désobéissance à un moment donné, donc vous avez dit la désobéissance civile, citoyenne, et en fait, c'est plutôt une désobéissance, je dirais, un peu pas politique que vous proposez, mais si, Et moi, j'aurais aimé savoir si vous aviez des idées sur une désobéissance un peu à la Gandhi. Hein. Quel que soit le parti politique, tout le monde était un peu derrière lui, tout le monde allait s'asseoir avec lui. C'est un petit peu ça que je voulais trouver.
Excusez-moi, j'ai pas compris la fin. C'est-à-dire, sur...
Qu'est-ce que vous proposez pour que, par exemple, moi, je fasse de la désobéissance? Voilà.
Alors, ça fait une bonne première rafale de questions, mais ça, merci beaucoup pour l'intérêt. Je vais essayer de prendre dans l'ordre, et si j'oublie, vous me le dites. Alors, sur le président, respect et garant des traités. Oui. En fait, la question, c'est que on a déjà désobéi. Comme je vous dis, ça fait longtemps que la France n'a pas respecté les 3%. Ça, c'est important. Et qu'à chaque fois, on a trouvé une bonne excuse. Et quand je dis bonne excuse, des fois, c'est une très bonne excuse. Si vous voulez, la dernière fois qu'on a écrit à la, enfin, une fois qu'on a écrit à la Commission européenne pour dire « Écoutez, on ne va pas respecter », c'était au lendemain des attentats. Au lendemain des attentats, François Hollande explique que puisqu'il y a les attentats, puisqu'on doit faire un effort budgétaire pour protéger la France, mais aussi intervenir au Sahel dans le cadre des différentes opérations, eh bien, la France, finalement, joue le rôle de gardien pour l'Europe. Bon, c'est un argument hein, qui peut s'entendre. Et du coup, ils ont dit, bah, en fait, on enlève les investissements sur la défense du calcul des 3%. Et évidemment, si vous vous rappelez la période, la Commission européenne a dit très très bien, prenez votre temps. Là, il s'agit de dire, il y a urgence, le pays se délite avec l'évasion fiscale. Enfin, si vous vous rendez compte, ça fait quand même 3 mois que tous les samedis, il y a une partie des gens qui manifestent pour dire on veut que les gros payent gros et que les petits payent petits. C'est ça la demande des Gilets jaunes. Et donc, quand on dit le pays se délite, c'est vrai. Enfin, c'est-à-dire que le consentement à l'impôt, c'est la base de la démocratie. C'est-à-dire que moi, je veux bien payer... Enfin, en gros, le consentement à l'impôt, c'est dire moi, je veux bien payer des impôts à condition que je sache que vous, là, sans qu'on se connaisse, je sais que vous en payez aussi à peu près votre juste part. Et que j'ai aussi une vision de à quoi c'est employé. C'est constitutionnel. C'est l'article 14. Donc, quand le consentement à l'impôt d'élite, que par exemple on finance... Moi, je n'avais pas prévu que mes impôts, ils avaient financé la baisse de l'ISF. Ou je n'avais pas prévu que depuis 5 ans, on distribue des milliards au CICE là, d'entreprises et que ça ne produise pas d'effet. Et je n'avais surtout pas prévu que Carlos Ghosn n'en paye pas du tout ou que Starbucks n'en paye pas du tout. Et donc, quand on joue sur ces questions de consentement à l'impôt, en fait, on s'attache à sauvegarder le bien commun. Et donc, le président, il est aussi garant de ça. Et puis, il y a un autre aspect dans les traités qui est important, c'est la loyauté. C'est-à-dire que cette construction européenne, elle se fait dans la loyauté. Et donc, il y a un échelon intermédiaire avant de désobéir, c'est d'engager la responsabilité des pays pour des loyautés. Ça, c'est Eva Joly qui propose cette clause. Elle connaît mieux que moi, évidemment, les traités européens, les députés européennes. Mais on peut considérer à bien des égards que le Luxembourg, en proposant des accords commerciaux, enfin plutôt des accords, en gros, monsieur Facebook, monsieur Amazon et monsieur je sais pas quoi, venez chez moi parce qu'en fait, je vous ferai très très peu d'impôts. On peut considérer qu'ils sont... ils ont organisé leur prospérité au détriment des voisins, au détriment des... Et donc, ils ont finalement construit... ils ont profité de la construction européenne pour améliorer leur situation au détriment des autres. Et donc, avant de désobéir, franchement, engager et poser cette question de la loyauté, tout ça fait partie d'une gradation, en fait, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'aller d'emblée à la désobéissance. Mais faisons le contraire. Donc on a parlé de la sortie, j'y reviendrai, c'est quoi le risque de la sortie? Mais sinon, le statu quo. Le statu quo, c'est ce qu'on nous propose depuis 10 ans ou 15 ans. C'est-à-dire, en gros, on laisse aux plus libéraux le soin de dicter des politiques publiques qui ne marchent pas. C'est-à-dire que non seulement ça produit de la désespérance, mais si seulement ça marchait. Mais en fait, ça produit de la désespérance et ça ne marche pas. C'est-à-dire que le ruissellement ne fonctionne pas. Quand on fait le CICE, les milliards qui sont distribués aux entreprises sans contrepartie, si seulement ça faisait de l'investissement ou un peu d'emploi ou pourquoi pas je ne sais pas quoi. Mais non, ça produit des dividendes. C'est-à-dire que c'est de l'argent public qui part dans les mains du privé. Et donc ce statu quo, c'est vraiment le carburant de toutes les idéologies les plus populistes ou les plus réactionnaires d'extrême droite. Donc moi, je veux bien qu'on me dise ce plan marche pas. Encore une fois, c'est qu'une contribution. Et je serais bien arrogant si je vous disais qu'à moi tout seul ou avec Kevin, on avait la solution pour l'Europe, bien sûr. Mais simplement, se contenter du statu quo ou sortir de l'Europe, ça ne me va pas ni de cœur ni de raison. Sur la question, avant de venir sur la question principale de pourquoi garder l'Europe, Génération Écologie, Delphine Bateau, je ne sais pas. C'est le malheur des Verts, des écologistes, que de créer des partis un peu similaires. Il y en a plein, à peu près chaque année en fait. Donc il y aura forcément quelqu'un qui vous trouvera une excellente raison pour laquelle il y a un autre parti que les Verts. On a tout, on a nos insuffisances. Pour être porte-parole, je peux vous dire à quel point notre fonctionnement ou certains de nos représentants, les placés, l'Écosse et les autres, les Dorugy, nous ont fait du mal. Mais c'est un vrai travers des écolos que de créer un nouveau mouvement à chaque fois. Donc sur l'Europe, je ne sais pas quel est leur projet, ça m'étonnerait que ça soit très très différent. Ça m'étonnerait par exemple qu'ils soient pro-nucléaire ou anti-européen. Voilà. Sur la distinction, je fais dans l'ordre, sur la distinction entre l'Union européenne, l'Europe et le Conseil de l'Europe, absolument, vous avez absolument raison, j'allais au plus vite. Je ne suis pas sûr que tout le monde dans la salle soit prêt pour abolir les frontières avec la Russie, cependant. Donc quand je parlais de la construction européenne, je parlais de la construction européenne à 28. Mais néanmoins, le Conseil de l'Europe, et c'est vrai, c'est dès 1949, donc c'est 4 ans après la guerre, c'est incroyable. C'est aussi l'institution un peu méconnue, mais qui a aussi son siège à Strasbourg, et qui a mis sur pied la Convention européenne des droits de l'homme. Et là encore, c'est l'Europe qui, bien souvent, enfin c'est cette Europe-là, donc c'est le Conseil de l'Europe ou la Cour européenne des droits de l'homme, qui bien souvent protège nos libertés publiques. Si en France, on a dû bouger sur la garde à vue, où il n'y avait pas d'avocat jusqu'en 2010, c'est parce que la Cour européenne des droits de l'homme nous avait plusieurs fois sanctionnés. Là encore, vous voyez que l'importance d'avoir une Cour européenne des droits de l'homme, une instance supérieure qui peut rappeler à l'ordre quand certains pays, certains gouvernements, et là on en a un exemple avec la loi anticasseurs, profitent de faits, de lois de circonstances pour imposer des reculs liberticides. Donc, mais il ne faut pas confondre, bien sûr, Union européenne et Conseil de l'Europe. Sur l'unanimité en matière fiscale, absolument, c'est ça le verrou qu'il faut faire sauter. Il y a une nécessité de l'unanimité pour évoluer sur les questions fiscales. Eh bien, c'est ce verrou qu'il faut faire sauter. On a aujourd'hui, vous avez l'Irlande ou les Pays-Bas, la dirigeant en tout cas, qui peuvent s'opposer à une évolution des règles fiscales au nom de leur souveraineté. Et c'est ce problème, et c'est notamment comme ça que le Luxembourg a bloqué toutes les avancées en matière de... enfin, a retardé les avancées en matière de secret bancaire, de protection des lanceurs d'alerte, d'harmonisation des taux d'impôts sur les sociétés ou sur la TVA. C'est en fonction de cette unanimité. Mais c'est ce verrou qu'il faut faire sauter, et ça passe donc par faire le ménage chez soi, parce que la France n'est pas exemplaire, et convaincre les opinions publiques que c'est le levier important. Mais rien n'empêche d'agir en attendant. Sur la procédure de sanction, vous n'avez pas dit le contraire de moi. Je disais que si la Commission européenne constate que vous avez un déficit et qu'elle est en désaccord avec vos remèdes pour y remédier, elle peut engager une procédure de sanction, ce qu'elle n'a pas fait. Le Portugal était en déficit. La Commission européenne a dit bah, c'est pas compliqué, il faut encore baisser les retraites. C'est pas compliqué, il faut encore baisser le salaire des fonctionnaires. Ils ont dit non et il n'y a pas eu de sanction. Donc, vous voyez qu'il y a une distinction entre le fait de travailler un accord ensemble pour qu'il y ait équilibre ou pas, 3%, etc. et le fait d'accepter tel quel des remèdes, entre guillemets, qui sont peut-être pires que le mal. Et que partout maintenant, un consensus se fait contre ces politiques à mener, ces politiques économiques qu'on appelle le consensus de Washington, privatisation, baisse des services publics, baisse des impôts et baisse des traitements des fonctionnaires. Et donc, c'est un jeu politique, en fait. Quand vous dites la Commission européenne a fait plier l'Italie, c'est une question politique. Ce n'est pas une question de traité et d'application mécanique d'une règle. Ça devient une question politique. Et c'est là-dedans qu'il faut investir les traités et refaire de la politique, là où on a fait semblant de dire que c'était technocratique et que donc il n'y avait forcément plus rien à faire. Et vous savez, c'est tous les gouvernements qui, au lieu de faire de la politique, vous disent « Ah, mais c'est la faute à Bruxelles ». Mais c'est qu'en fait, ils n'ont pas joué leur rôle. Quand c'est la faute à Bruxelles, quand quelqu'un vous dit que c'est la faute à Bruxelles, c'est en général qu'ils n'ont pas voulu jouer le rapport de force ou qu'ils étaient bien contents que leur initiative soit stoppée. Et donc, sanctionner un pays parce qu'il décide d'agir contre l'évasion fiscale ou la transition écologique, c'est politique. Alors, il peut y avoir la sanction à la fin, mais encore une fois, c'est très compliqué pour les Allemands de sanctionner la France parce qu'elle engage la transition écolo. C'est très compliqué pour le Luxembourg de dire oui, il faut sanctionner la France parce qu'elle a commencé à agir contre l'évasion fiscale. Et donc c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et enfin, sur pourquoi garder l'Europe, je suis passé un peu vite. Moi, je maintiens que c'est un... Mais c'est, vous n'êtes pas obligé de le partager. Je maintiens que c'est un projet civilisationnel. Je maintiens que s'enfermer dans nos frontières et les revendiquer. Bien sûr qu'on a des frontières, bien sûr qu'on a des régions de cœur, des pays d'attachement, etc. Mais que considérer que l'autre est tout à fait différent parce qu'il habite de l'autre côté du Rhin, en fait, moi, c'est pas vrai, en fait. Voilà. Et sur le projet, si vous voulez, on est le, je sais pas, 23, 24 février, on ne sait pas ce qui se passe au 29 mars ou au 30 mars, au lendemain de la sortie du Royaume-Uni. Donc, si vous voulez vous dire pourquoi garder l'Europe, bah, j'ai envie de dire pourquoi en sortir. Ce qui s'est passé, c'est que Cameron a utilisé le référendum comme un outil de politique interne. Hein, à un moment, il était un peu en difficulté. Il a dit « Oh là là, on va taper sur l'Europe, ça va faire bien dans mon opinion publique. Donc, je veux ça. Je veux ça, ça, ça. » C'était quatre atteintes à des piliers majeurs du fonctionnement, la libre circulation des personnes et autres. Donc les pays ont dit attends, est-ce qu'il bluffe? Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? On voit bien qu'il est en train de monter la sauce uniquement dans un but de politique interne. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et donc les pays ont dit bah, on est embêté s'il s'en va, donc on va lui lâcher un peu de l'Est, mais on ne peut pas lâcher sur l'essentiel. Il y a eu un accord, alors avec toute la dramaturgie bruxelloise, hein, ils ont mis un peu de temps, ils ont passé la nuit, puis le lendemain ils ont trouvé un truc. Le temps qu'ils reviennent, lui il s'était dit bon, bah, je vais défendre ça, et puis. Voilà, ça aura fait un peu de bruit, un peu de mousse, et pendant ce temps-là, les Anglais auront peut-être oublié mes mauvais résultats sur le front du chômage, sur le front de la lutte contre l'évasion fiscale. Pas de bol. Quand il est revenu, les gens lui ont dit « Bah, t'as venu un référendum, on fait un référendum. » Et lui, il savait même pas quelle position il devait soutenir, oui ou non. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que c'est le premier ministre d'un des pays qui a un siège au Conseil de sécurité, il savait même pas s'il devait dire oui ou non à la sortie de l'Europe. Les travaillistes non plus. Donc la campagne s'est organisée dans le chaos complet. Vous avez eu des fake news dans tous les sens. Il y a une majorité de 52%, donc c'était pas très très serré. Hein. 52%, c'est net. Et là, on ne sait pas ce qu'il advient de l'Angleterre. C'est un pays qui a une histoire incroyable. Les Écossais, si la sortie se fait, sont prêts à sortir pour rentrer dans l'Europe. Les Irlandais, qui ont vécu une guerre civile très dure jusqu'à la fin des années, jusqu'à la fin du siècle, sont en train de se dire que si c'est pour remettre une frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, la République d'Irlande, l'Irlande du Sud, eh ben en fait, pourquoi pas réunifier l'Irlande? On est là. Ça veut dire qu'on est à un mois et demi de la sortie du Brexit, enfin du Brexit, et ce pays qui toujours on l'appelait le Royaume-Uni, qui est en alliance depuis des centaines d'années, sur un simple coup de poker de campagne interne, pourrait passer à la dislocation. Et demain, peut-être, vous aurez les Anglais en solo avec les Gallois. Ils vont se dire, mais tiens, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et vous aurez les Écossais et les Irlandais qui seront partis. Donc vous voyez que, finalement, c'est toute une construction européenne. Et moi, je veux bien qu'on dise, OK, on en sort. Mais dans ce cas-là, il faut réfléchir à c'est quoi la suite. Et aujourd'hui, on ne la connaît pas. Voilà. On ne la connaît pas. On ne sait pas dans quelle monnaie il faudrait payer les médicaments dont on est dépendant. On ne sait pas comment est-ce qu'on financerait cette agriculture. Si on enlevait les 55 milliards de la PAC, c'est vrai. On ne sait pas ce qu'il adviendrait du pays. Enfin, en tout cas, la manière dont le Cameron a joué au dé la sortie de l'Union européenne devrait nous... Je dis pas, voilà, les personnes qui sont pour la sortie de l'Europe, ils ont des bonnes raisons, il n'y a pas de problème. Mais simplement, engageons un débat sérieux. Parce que la manière dont ça s'est fait en Angleterre, c'est la catastrophe. Voilà.
Deuxième série de questions.
Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous ne pensez pas que les citoyens doivent désormais s'informer, s'auto-éduquer, j'ose le dire, sur les questions de société? Alors pas seulement en regardant la télévision et en regardant Internet, mais en prenant rendez-vous les uns avec les autres à l'occasion de débats citoyens, de façon à pouvoir parler entre eux, même lorsqu'ils sont... face à des gens, je dis n'importe quoi, mais pourquoi est-ce qu'on ne verrait pas des débats citoyens entre des militants Rassemblement National, Asselineau, France Insoumise, Vote Blanc, alors pardon, je fais un petit peu de publicité, mais nous on organise un débat citoyen le mercredi 27 février à 18h15 au 22 place des Pavillons dans Lyon 7e, et on se pose la question, l'économie et l'écologie sont-elles conciliables? On va en discuter ensemble, on va travailler en ruche. Et on va faire des propositions. Pour ceux qui souhaitent s'inscrire, c'est là. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative ? Merci.
Oui, bonjour. Ne croyez-vous pas que la problématique de l'Europe serait plus profondément au niveau du système néolibéral sur lequel elle se repose, qui, sur beaucoup d'aspects, crée un déséquilibre social, économique et environnemental dont on paye les effets actuellement. Et de fait, demander aux politiques, essayer de désobéir pour infléchir les politiques publiques qui continuent de mener une politique libérale, c'est pas déjà pas suffisant. Même en les changeant, c'est beaucoup plus profond sur lequel repose l'Europe que les problématiques émergent. Donc effectivement, il faudrait revoir tout un mode de consommation. Voilà. Voilà.
Bonjour, je suis tombée dans l'écologie en 1974 avec la campagne de René Dumont. Depuis, je n'ai pas arrêté de militer, mais jamais dans un parti, toujours dans des associations. Donc la désobéissance, ça va, je connais, ANV, COP21, etc. Les débats, eh ben, pour préparer la prochaine marche pour le climat, on s'est réunis il y a quelques jours avec un débat très ouvert, très organisé. Et peu à peu, on avance vers une marche où on va essayer... non seulement de se compter, mais de faire des petites animations pour que les gens se posent des questions. Et puis, peu à peu, à chaque réunion, on a un peu plus de monde, etc. D'autre part, au niveau des obéissances, pendant même ces trois jours de prime vert, il y a eu deux perquisitions et une mise en garde à vue d'un militant d'Alternativa, parce que quatre villes ont eu un crime de lèse-majesté perpétré dans les mairies, le décrochage du portrait d'Emmanuel Macron. Et Pierre Gouinvic, militant d'Alternativa à NVCOP21, a été perquisitionné chez lui. L'Alternativa, qui est le lieu de réunion de beaucoup d'associations, a été perquisitionné également. Pierre est sorti de garde à vue avant-hier soir à 22h. Donc la désobéissance, tout ce que vous dites... Je trouve quand même drôle de ne pas entendre plus parler des associations dans ce débat.
Oui, on entend bien sûr souvent parler de l'Europe en termes négatifs, mais il est peut-être bon aussi de rappeler le positif. Bon, Erasmus, REACH, tout ce qui est les directives européennes sur la santé au travail, etc., etc. Donc, et c'est vrai, Julien, tu l'as dit, souvent c'est pour des raisons de politique interne qu'on tape sur l'Europe. Et du même coup, les citoyens tapent aussi sur l'Europe. Il faudrait à chaque fois faire un bilan, le positif et le négatif. Bien sûr, il y a énormément de choses à améliorer. Mais qu'est-ce qu'on. Voilà, sans l'Europe, est-ce qu'on aurait fait quand même tout un tas de choses qu'il serait bon de rappeler?
Bonjour, je suis d'accord avec ce que mon voisin vient de dire. Et en même temps, je trouve qu'on a une perte de liberté entre les histoires de Monsanto, de Linky, et on est en train de perdre notre santé et on a une vie de merde. Donc, est-ce que c'est ça le progrès ?
Merci, c'est clair. Alors, déjà, pour aller vite sur le fait de s'auto-organiser, oui, madame. Clairement, bien sûr, auto-organiser, le fait de débattre, c'est la délibération, c'est l'essentiel de la démocratie. Nous, les écologistes, on parle de démocratie en continu. C'est-à-dire qu'on a en horreur cette démocratie par intermittence. Alors, c'est représentatif, bien sûr, mais c'est pas parce que c'est représentatif qu'on doit donner notre voix comme ça et ne plus être consulté pendant 5 ans. Donc, on veut remettre du participatif dans la démocratie représentative. Et ça ne s'oppose pas du tout. Au contraire, ça produit de meilleures politiques publiques. Donc je pourrais développer à loisir, mais bien sûr, allez-y, organisez-vous, faites des débats, faites des propositions. C'est d'ailleurs tout ce qu'on peut souhaiter aux Gilets jaunes. Enfin, c'est quand même un beau moment de politique. Si je mets de côté, on n'y comprend pas grand-chose, les revendications ne sont pas forcément très claires et il y a différents émetteurs. Mais le principe même que des personnes qui disaient « la politique, c'est pas pour moi », commencent à s'organiser et à se réapproprier la parole publique, ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, à voir comment ça peut évoluer. Est-ce que ça sera une liste aux européennes ? Est-ce que ça sera un regain de participation aux européennes ? Est-ce que ça sera tout autre chose de construction d'un commun ? Mais quand vous vous intéressez à la politique, vous pouvez que vous réjouir du fait que la jeunesse ou des personnes qui disent « bah en fait, moi, c'était pas pour moi », s'y intéressent. Donc, allez-y, bien sûr. Sur la question... je sais pas par où commencer... L'Europe, tu as mentionné Erasmus, tu as mentionné REACH, donc c'est l'évaluation des pesticides et des différentes molécules qui sont dans les produits, et le fait qu'on puisse en avoir une lecture. On pourrait mentionner la directive sur la qualité de l'air. C'est parce qu'il y a une directive européenne sur la qualité de l'air que la France est obligée d'agir. C'est quand même complètement dingue. On parle de menaces avérées qui pèsent sur la population en raison des particules fines et autres. Et il faut que ce soit l'Europe qui dise « Attention à la France, on va vous mettre une amende pour que vous protégiez votre propre population. » Vous voyez, c'est vraiment comme ça que ça bouge. Et c'est pareil sur l'eau des rivières. Et donc, c'est comme ça aussi que c'est finalement un député allemand, donc je ne connais pas son nom, un eurodéputé allemand, écolo, qui a mis en place la fameuse directive RGPD, vous savez, la protection des données. Tout ça, c'est un écolo au départ. Ça part vraiment d'un bonhomme. Mais si ça n'avait pas été l'Europe qui l'avait imposé, on imagine mal Mounir Majoubi ou je ne sais pas qui au gouvernement dire à Facebook, au fait, on va vous imposer des règles drastiques. Évidemment, ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas ? Déjà parce que l'échelon n'est pas suffisant. Mais là, je fais le lien avec votre question. En fait, vous nous dites le système européen est trop néolibéral dans sa constitution même. Mais je pourrais vous dire la même chose sur la France, en fait. Le problème, c'est que depuis 1958, depuis 1995, on a eu que ces politiques au pouvoir. Donc, modulo 97-2002 quand même, parce qu'il y a les 35 heures et autres. Bon, mais depuis 2002, ce sont des politiques finalement plus ou moins libérales, d'affaiblissement des services publics, de baisse des impôts pour les plus riches au motif que ça allait favoriser je sais pas quoi, la compétitivité, l'attractivité, tous les mots hantés là, qui servent pas le bonheur des gens, mais qui servent bien sûr certains actionnaires, et ça c'est au cœur du système français malheureusement. Et donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh ben, on s'organise, on va aux élections, on mobilise pour justement reprendre ce cœur de pouvoir et se réapproprier et mettre un coup de volant pour en changer les politiques et en changer le fondement même. Alors des fois, ça marche pas. Des fois, même, on se plante sacrément et c'est Emmanuel Macron qui gagne. Mais il me semble pas que parce que on constate que les politiques publiques sont mauvaises, en ce cas-là, on dit « alors je m'en vais ». En tout cas, pas nous. Et ça serait l'erreur à ne pas faire au niveau européen. Parce que les traités en eux-mêmes seraient forcément néolibéraux ou je ne sais quoi. On devrait dire, dans ce cas-là, c'est bon, alors c'est plié, on n'en fait pas notre affaire. C'est la meilleure manière que ça perdure. Au contraire, nous disons, on doit se réapproprier ces leviers. On doit aller chasser de la Commission les commissaires et autres qui sont en plein conflit d'intérêts, c'est-à-dire qui viennent directement du privé pour aller négocier des grandes directives en soutien finalement à leurs anciens employeurs ou futurs employeurs. Et c'est valable en France aussi, hein, la France n'y échappe pas. Et donc au contraire, c'est non pas, bien sûr, être très très lucide sur le constat, et le constat il est sévère, mais ça doit nous donner d'autant plus d'énergie pour aller nous réapproprier et aller reconquérir finalement ces leviers qui nous ont été clairement confisqués. Voilà. Mais il s'agit, voilà, et c'est valable pour la France comme pour l'Europe. Et enfin, sur la désobéissance, pardon madame, c'est bien sûr les associations qui portent cette lutte. Je suis allé un peu vite, clairement, mais pour les écologistes, quand je dis écologistes, je ne parle pas que des partis. Ça se saurait si tous les écologistes étaient dans un parti écolo. On serait bien plus puissants. Les écologistes sont majoritairement dehors. Des fois, on arrive à s'articuler, à fonctionner ensemble. Des fois, non. Et quand on y arrive, ça fonctionne bien. C'est les faucheurs volontaires. C'est comme ça, finalement, que le débat sur les OGM a pu avoir lieu en France. C'est parce qu'il y a des José Bové et des faucheurs volontaires qui sont allés finalement interpeller l'opinion publique devant les médias en disant ben, on est au bord de l'irréversible, parce que si vous faites cette culture d'OGM en plein champ, eh bien dans ce cas-là, les OGM se propagent dans toute la nature. Et donc c'est la désobéissance civile, bien sûr, qui a permis en dernier recours d'avoir un débat. Et on pourrait multiplier les exemples. Aujourd'hui, eh bien c'est cet activiste militant très jeune d'ailleurs de ANV qui aux quatre coins de la France et ici à Lyon sont allés décrocher, alors c'est symbolique, c'est un pied de nez, mais c'est aussi très 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 fort d'aller décrocher le portrait d'Emmanuel Macron pour dire voilà, ça c'est le vide de sa politique. C'est aussi une manière de faire prendre conscience, un sacré pied de nez, c'est très drôle, la droite est furax hein, évidemment. Mais finalement, c'est aussi la manière de dire, mais écoutez, il y a des grands discours, make our planet great again, la réalité, c'est ça, c'est vide, c'est la trace laissée par la poussière sur le portrait qu'on vient d'enlever. Et c'est très très fort, vous voyez que ça n'a pas besoin, au contraire, et la violence, enfin bon, je ne veux pas m'étendre, mais c'est non-violent évidemment, c'est pacifique, mais ça a une puissance d'évocation, d'imaginaire, et vous mettez de votre côté tous les indécis, ceux que... qui trouvent que bah, vous avez raison et qu'en fait 24 heures de garde à vue pour ça, c'est scandaleux en fait. Et c'est la puissance de la désobéissance civile que d'obliger finalement chacun à se positionner. La fameuse Rosa Parks, que vous connaissez, cette noire américaine qui avait refusé qui voulait s'asseoir à l'avant du bus parce qu'elle avait refusé de partir à l'arrière parce qu'elle était fatiguée et qui a pris une amende pour ça, qui a été arrêtée et qui a pris une amende. Elle a obligé, en fait, finalement, par son geste, l'ensemble de la population américaine à regarder ce qu'elle ne voulait pas regarder. Le fait que les droits civils, les Noirs en étaient privés. Et ça a amené l'ensemble de la population à reconnaître que la sanction était impossible, était injuste et qu'il fallait faire évoluer. C'est ce type de désobéissance qui peut être porté par des associations, par des individus, c'est les lanceurs d'alerte, c'est ceux qui disent, eh bien, très bien, j'ai une information sur... un scandale de mon entreprise et je choisis l'intérêt général, je choisis le bien commun au risque d'être sanctionné. C'est Antoine Deltour sur l'évasion fiscale au Luxembourg. C'est grâce à lui que des politiques publiques sont mises en œuvre. C'est grâce aux squatteurs, moi j'ai fait partie de Jeudi Noir, qu'on a pu mettre la question du mal logement au cœur du débat public en disant mais attendez, si nous on arrive à loger 30 personnes, alors l'État devrait pouvoir le faire. C'est pas aussi simple que ça, mais ça permet de projeter le débat public. Et donc le faire au niveau d'un bras de fer institutionnel par une ville, c'est possible. Grenoble le fait. Grenoble le fait. Grenoble, le maire écologiste Éric Piolle estime, et il a raison, qu'il n'y a pas assez de policiers en nombre par habitant et que Grenoble fait face à une délinquance organisée. Eh bien, il est dans la désobéissance civile, dans les clins d'œil, pour obtenir un rééquilibrage des forces. Et c'est valable... ils ont dû aller au tribunal pour mettre en œuvre leur... ils ont une proposition de démocratie locale pour que les gens qui ne sont pas d'accord avec la mairie puissent s'organiser et proposer d'imposer un sujet à l'ordre du jour. Ils sont maintenant en justice parce que le préfet a voulu sanctionner ce dispositif de démocratie locale. Donc le fait de faire un bras de fer institutionnel, c'est jouer, c'est faire remettre de la politique là où on ne verrait que des règles technocrates. C'est possible au niveau d'un État. C'est ce que le Portugal a commencé à faire.
D'autres questions? Alors, une ici, une là-bas.
Oui, vous n'avez pas parlé plutôt trop des services publics. L'Europe n'est pas tellement, on peut dire, une adepte des services publics. La France a quand même un service public conséquent qui est malheureusement est en train d'être abattu. Comment vous voyez les choses au niveau du Parlement européen sur cette question? Et puis, deuxième volet, vous avez parlé d'alliance au Parlement européen. Alors, avec qui comptez-vous vous allier comme genre de groupe, hein, etc. Vu que vous n'êtes quand même pas des élus très, très nombreux par rapport au groupe majoritaire de droite ou de socialistes.
Oui, bonjour. Au niveau de la désobéissance civile, j'ai le souvenir que vous avez parlé, pris pour exemple le Portugal. Je veux bien, je ne connais pas trop ce qui s'est passé au Portugal, mais je sais ce qui s'est passé en France, notamment au niveau des OGM. Et nous avons, des associations ont réagi pendant plusieurs années. Et le résultat, c'est qu'on a tempéré, bien sûr, on a attendu. Ça a donné la possibilité aux lobbies de contourner la loi et de présenter les mêmes OGM d'une manière différente. Et nous avons eu, au niveau de l'Union européenne, de la Commission européenne, une amende cumulée au nombre des années qui a atteint quelques 10 milliards d'euros. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé au Portugal, mais enfin, moi, quand je vois, quand on fait la différence, depuis tout à l'heure, j'entendais quelqu'un dans l'assistance qui parlait des bienfaits de l'Europe, je suis bien d'accord qu'il y a quelques petites broutilles à droite et à gauche qui ne nous empêcheraient pas, à nous, la France, indépendante et sortie de l'Europe, d'accorder aussi au peuple. Rien ne nous empêcherait, mais c'est certainement plus facile, me semble-t-il, pour des associations de s'accorder et d'obtenir ce qu'elles veulent au niveau de la France qu'au niveau de l'Europe. Parce qu'au niveau de l'Europe, il y a quand même toutes les grandes orientations politiques et sociétales et commerciales. Hein, je ne trouve pas le terme exact, mais il y a la délocalisation des entreprises avec tout le droit du travail qui est bousculé, qui est anéanti en France. Hein. Ça nous vient de la Commission européenne. Et il y a les services publics démantelés qu'on appauvrit et qu'on ne finance plus de manière à pouvoir les privatiser au bénéfice, évidemment, de qui ? Il y a la protection sociale qui est attaquée dans tous les domaines, la santé qui est privatisée, la santé publique, hein, au profit non pas de vous et de moi, mais au profit des lobbies pharmaceutiques, au profit, bon, voilà. Il y a les agriculteurs et les pêcheurs qui sont sanctionnés avec des quotas. Hein. Vous parliez tout à l'heure de subventions de l'Europe, de la Commission européenne aux agriculteurs. Il faut savoir que cet argent qui est donné aux agriculteurs ne vient pas de la Commission européenne, elle vient de l'argent que la France donne à la Commission européenne, 24 milliards par an. Hein, et sur ces 24 milliards par an, il y en a 13 ou 14 qui sont retournés à la France. Et on nous dit, c'est pour faire telle chose, c'est pour l'agriculture, mais dans tel domaine, on a les pieds et les poings liés avec ces grandes orientations économiques et politiques de la Commission européenne.
Reprenons-les.
Alors finalement, moi je me dis, notre indépendance... si on l'a, parce que la France est vraiment en train de plonger, elle a plus d'industrie, son industrie est complètement.
Je vais vous répondre, madame.
Oui, et je me dis que finalement, si on continue comme ça avec l'Europe, eh bien, on va devenir comme la Grèce, et peut-être pire. Tandis que si on sort, au moins on aura une espérance de faire quelque chose qu'au moins on aura voulu. C'était simplement pour vous dire ma réaction, parce que je suis comme les gilets jaunes, j'en ai assez. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci, madame. Alors, pour répondre rapidement, et je suis désolé de vous contredire, par contre, ce n'est pas 10 milliards l'amende sur les OGM, parce que du coup, pendant que vous parliez, j'ai regardé. C'est 10 millions, c'est quand même très très différent. Et surtout, c'est pas parce que l'Union européenne tenait absolument à ce qu'on ait des OGM, c'est parce que c'est une directive que la France doit transposer. Là, pour le coup, oui, c'est un abandon de souveraineté. Quand il y a une directive qui est faite au niveau européen, la France se doit de la transposer. Et quand elle tarde, alors elle peut être sanctionnée. Et en l'occurrence, je lis, hein, la Cour a néanmoins dénoncé la durée importante de persistance du manquement que rien ne permet de justifier. Elle a souligné la gravité du manquement de la France, la directive étant destinée à protéger la santé humaine et l'environnement. Alors, on peut être en désaccord. Et surtout, on peut dire que les directives, elles ne sont pas transposées telles quelles. La France aurait pu, si on avait eu une majorité, si nous, les écologistes et la gauche, avions été suffisamment intelligents, associations et partis pour prendre le pouvoir, on aurait pu dire, dans ce cas-là, on transpose votre directive, mais on y met les verrous nécessaires pour éviter les OGM. Donc attention à ne pas dire que la France a été sanctionnée à 10 milliards, alors qu'on parle de 10 millions. Et sur la question des OGM, c'est pour défaut de transposition d'une directive. Après, vous avez dit beaucoup de choses. Moi, je vous avoue que sur les quotas, c'est pas évident, sur les quotas de pêche. Mais bien sûr qu'il faut des quotas de pêche. Bien sûr. La question, c'est que plutôt, les pays s'en exonèrent, le problème des pêcheurs, on les a eu il y a pas longtemps, c'est qu'ils peuvent respecter les quotas. Mais si les Anglais ne le font pas, parce qu'ils sortent de l'Europe, et bien qu'ils viennent dans les zones de pêche pour braconner, entre guillemets, c'est-à-dire en gros tout récupérer, tout le monde perdant. Bien sûr, l'humanité au premier sens, parce que si la pêche disparaît, c'est l'acidification des océans. Enfin, je ne fais pas le cirque, mais c'est un danger. Hein. Si on perd l'écosystème des océans, c'est pas vraiment la peine d'essayer de sauver ce qu'il y a sur la Terre. C'est bien sûr les pêcheurs qui voient leur mode de vie menacé très très rapidement. C'est-à-dire que la pêche durable, c'est pas un vain mot. C'est-à-dire que si on laisse pas les stocks se reconstituer, certes, vous faites une bonne pêche en avril, mais le mois de mars prochain, vous n'avez plus rien du tout. Et là, c'est plutôt l'absence de concertation au niveau européen. Je sais, c'est contre-intuitif, mais c'est l'absence de concertation au niveau européen qui fait que les Français sont dans la difficulté. Et c'est le fait que les Anglais sortent et puissent s'exonérer de toutes les règles pour aller braconner, qu'évidemment, les Français vont faire la même chose, et du coup on n'en sort pas, et c'est tout le monde qui perd. Donc c'est vrai que des règles communes, bien sûr que ça peut sembler être une perte de souveraineté, mais au final, moi je maintiens que s'agissant de la pêche par exemple, c'est bien mieux. Sur les services publics, c'est toujours pareil, on nous vend les privatisations comme absolument nécessaires, mais en fait c'est une baston à mener au niveau européen. Quand on nous dit EDF doit être privatisé, mais c'est pas vrai. Le service public de l'eau devait être privatisé parce qu'en Allemagne, c'est les lenders qui les ont, et ils ont dit mais non, on veut pas. On veut pas du tout. Et donc, les lenders ont gardé la mainmise sur la distribution de l'eau. Ça, c'est une vraie... c'est trop simple, en fait. C'est une baston qui se joue à la fois à l'Assemblée et à Bruxelles. Et il faut mener les deux combats. Et il faut prendre les leviers là où ils sont. Et donc, quand on nous dit... les services publics à la française vont être menacés. Ben oui, c'est vrai. Mais qui c'est qui les menace? Ben c'est Macron. Et c'est ses émissaires à Bruxelles. Et c'est ses émissaires à Bruxelles qui disent oui pour les menacer. Et le meilleur exemple, et vous pourrez pas me contredire, c'est sur les barrages. Il y a qu'en France qu'on va privatiser les barrages. C'est pas une directive européenne qui impose de privatiser les barrages. C'est une directive européenne qui dit il faut harmoniser les trucs. Mais dans les autres pays, ils vont pas les privatiser. Parce qu'ils savent bien que les barrages, c'est le cœur d'une énergie bon marché. Les barrages sont amortis et qu'il faut absolument avoir le contrôle au niveau du service public de ces infrastructures. Il n'y a qu'en France qu'on va les privatiser. Et qui décide de ça? Ben c'est cet gouvernement qu'on laisse agir parce qu'on n'est pas capable de nous organiser nous-mêmes. Et j'arrive à la question sur les alliances. Je ne sais pas ce que vous sous-entendiez. Nous, les écologistes, on ne fera pas d'alliance avec la droite. On ne fera pas d'alliance avec En Marche au niveau européen ni au niveau national. Donc je maintiens que envoyer des députés combatifs, comme on l'a fait par le passé, permet de mettre des grains de sel, des grains de sable dans les rouages. Quand vous envoyez Eva Joly sur l'évasion fiscale, ça les dérange. Quand vous avez envoyé Yannick Jadot sur la pêche, ça les dérange. Et que l'enjeu, mais c'est valable aussi pour la GUE, hein. Je ne veux pas faire de prosélytisme pro-écolo. L'enjeu, c'est d'envoyer des députés combatifs, mais cette fois-ci en nombre, pour faire pivot et obtenir d'être incontournable dans la majorité qui vient. C'est ce Parlement qui va voter le budget pour 7 ans. Donc il y a un vrai enjeu et les nationalistes s'organisent très très bien. À nous de nous organiser au moins aussi bien pour peser dans les années qui viennent. Voilà. On en arrête là. Merci beaucoup.